Good morning. I am Hans Gorger Ruprecht. This is CKCU Literary News, bringing you Parole d'Afrique, une émission animée par Antoine Oulu Garcia à Paris.
Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous retrouver pour un 7e épisode de Parole d'Afrique. C'est pour moi l'occasion de m'excuser platement, car nos 6 premières émissions ont été consacrées à des hommes. C'est donc avec plaisir que je répare ce manque cruel de parité en recevant aujourd'hui une femme, et bien évidemment, elle sera suivie par d'autres. Notre invitée du jour est d'origine camerounaise, elle est romancière, romancière de grand talent, puisqu'en 2013, elle a été lauréate du prestigieux prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone, récompensant ainsi son roman « Si d'aimer » paru aux éditions de La Cheminante. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de la belle Emley Boom. Bonjour Emley.
Bonjour Antoine.
Merci Emley de venir répondre à nos questions. Alors, pour commencer, vous vivez en France, vous êtes camerounaise d'origine, vous avez reçu le prix Ivoire et nous enregistrons l'émission à la librairie Galerie Congo.
Oui.
Galerie que je remercie d'ailleurs de nous accueillir encore une fois dans ses locaux. Est-ce que pour vous la littérature, c'est pas justement ça précisément, cette universalité?
Oui, bien sûr, c'est l'occasion de toucher au-delà de soi et de l'entre-soi. C'est l'occasion, c'est l'opportunité de s'ouvrir. C'est ça qui est bien avec la littérature ou les autres formes d'expression d'art, c'est que une fois que c'est fait, eh bien c'est ouvert au monde et c'est ouvert à qui veut bien rentrer dans cet univers.
Alors l'universalité, c'est la multiplication des individualités et leur coexistence. Dans votre roman Si d'aimer, vous faites coexister trois histoires qui s'entremêlent, celle de Salomé, de Valérie et de Moussa. Comment vous avez réussi la prouesse de vous mettre dans la peau, dans les yeux et dans la tête de chacun de vos personnages?
Chaque personnage avait son mot à dire. Je n'ai pas imaginé ce roman autrement. C'était un roman choral dans lequel chaque personnage avait une voix individuelle et tout à fait originale, même s'il raconte la même histoire. Et parce qu'il raconte la même histoire, c'était important d'avoir les nuances et les ressentis de chacun. C'était simplement comme ça qu'on pouvait avoir la vision globale de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se passer dans cette société camerounaise où les classes sociales ne se croisent pas forcément, où elles se croisent sans vraiment se rencontrer. On est dans la voix intérieure de chacun. On est dans ce qu'il pense, dans ce qu'il ressent. À partir de là, on se rend compte au fil du roman que les croisements ne sont pas si extraordinaires que ça finalement. Ils se font de façon assez naturelle.
Donc ce triptyque, si l'on peut dire, donne une globalité qui est un système cohérent et un système assez compact. Sylvie Darroux dit, votre éditrice, que quand on finit de lire Si d'aimer, on est orphelin de ce roman. Et il me semble avoir entendu que pas mal de vos lecteurs souhaitaient avoir une suite.
Oui, c'est très drôle parce qu'il y a effectivement des gens qui m'ont dit « Mais ça ne peut pas s'arrêter là, il faut absolument qu'il y ait une suite, on veut savoir ce qui arrive ». Pour Salomé, pour Céline, ils se sont attachés au personnage. Il y a même un lecteur qui, de temps en temps, m'envoie par mail une dépêche en me disant « Bref de Salomé ». Et lui, c'est son personnage préféré. Alors il me dit « Je l'ai rencontré à Abidjan, elle faisait ci, elle faisait ça, voilà ». Il s'est créé tout un univers autour de ce livre. Je trouve ça très touchant. Pour moi, c'est une grande récompense. Il ne faut jamais sous-estimer la rencontre d'un livre avec un lecteur, d'un livre avec une individualité. Lire, c'est très personnel, c'est très intime, c'est presque comme écrire, c'est une rencontre. À ce moment-là, chacun prend ça et en fait ce qu'il veut, le traduit à sa propre manière. Et ça, j'ai rencontré de mille et une façons avec les lecteurs.
On a donc trois récits, et d'ailleurs c'est assez amusant parce que dans la table des matières qui figure à la fin du livre, on va avoir la vraie manière d'entremêler ces trois récits. On peut lire soit les récits entremêlés, soit les récits un par un, par bloc. Et est-ce que ces récits qui racontent des histoires de vie, des histoires douloureuses, des histoires d'amour, est-ce qu'il y a une métaphore à trouver avec les trois parques de la mythologie grecque, ces trois parques qui étaient les déesses qui tenaient les fils de la vie et de la destinée humaine?
Oui, alors s'il y a une métaphore à trouver, mes personnages ne sont pas les parcs, mais elles sont les trois vies qui sont tenues. Elles font de leur mieux, il y a peut-être une fatalité, peut-être un destin, peut-être quelque chose qui tient le fil infime qui nous tient en vie. Mais au fond, elles sont moins des déesses que des êtres humains à part entière. Voilà, C'est ça, elles ont les fragilités d'être humain, elles ont les forces d'être humain, elles ont aussi la capacité de se remettre en question. C'est ça aussi, tout ce livre, c'est la force qu'on peut trouver à un moment de sa vie de se réinventer, finalement, quand rien ne nous a préparé à ça, quand ce n'est pas forcément quelque chose de confortable à faire, parce qu'on s'installe dans un certain confort. C'est normal, personne ne s'installe dans une attitude de souffrance ou de malaise. On essaye d'être dans le confort, mais parfois le confort, et c'est de cela que petit à petit ces personnages vont se rendre compte, que le confort dans lequel leur vie les a installés est aussi une sorte de prison. Et ils vont s'atteler à sortir de cette prison, même s'ils ne savent pas du tout de quoi demain sera fait.
Pour les auditeurs qui se demanderaient comment ces trois personnages se rencontrent, il faut savoir que le lien entre ces trois personnages, c'est un autre personnage assez haut en couleur, puisqu'il s'agit d'une prostituée de luxe.
Oui.
Est-ce que vous n'avez pas eu peur de choquer en abordant ce thème ?
Non, non, non. Je n'ai peur de rien quand j'écris. Je n'ai peur de rien. Je vais au fond de ce que j'ai envie de dire et je n'ai pas eu peur de choquer en abordant ce thème. Après, il fallait l'aborder d'une certaine manière. Il fallait pas nier le côté choquant, attristant. Mais c'était important aussi d'aller vers quelque chose, du tir vers la vie, voilà. C'était ça ma préoccupation. Et j'aime dire, c'est ma préoccupation en tant qu'auteur, mais c'était surtout la préoccupation de ces personnages, parce qu'ils coexistent dans ce livre comme ils ont coexisté en moi. On a fait front, on a vécu ensemble pendant toute la période où le livre s'écrivait. Et c'est vrai qu'il y a une démarche qui s'est mise en place entre des sujets extrêmement choquants et une sorte de marche vers la vie.
Alors vous dites malgré tout, parce qu'effectivement des personnages immatériels mais tout de même extrêmement présents du roman, c'est le sida.
Oui.
Est-ce que vous avez eu besoin d'un certain courage pour écrire sur ce thème assez peu traité en littérature et en particulier en Afrique ?
Oui. Est-ce que j'ai eu besoin de courage ? Je ne sais pas si j'appellerais ça du courage. Il y a longtemps que j'avais envie d'écrire sur le sida parce que je ne vais pas revenir sur ce que tout le monde sait, mais j'ai eu du mal parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, on était dans une démarche de mort. Et puis petit à petit, je me suis aperçue que grâce aux trithérapies, etc., on entrait, le sida était quelque chose avec lequel les gens vivaient. J'ai vu, moi ou d'autres, des personnes proches mourir de cette maladie. Et puis petit à petit, j'ai commencé à voir des personnes proches vivre avec cette maladie. Ça veut dire qu'on pouvait avoir une vie malgré tout, qu'on pouvait, que le sida n'était pas un point final, mais pouvait constituer un point de départ.
Alors, ce que vous dites de vivre avec la maladie plutôt que d'en mourir, ça me fait penser au fait que Emley en Bassa signifie espérance.
Oui.
C'est un pseudonyme que vous avez choisi à dessein, je suppose.
Oui.
C'est ce que vous voulez faire passer dans votre écriture ?
Voilà, je suis quelqu'un de très optimiste. Il faut vivre chaque instant et qu'il faut le vivre pleinement. Ça a l'air bateau de dire ça, mais c'est une vraie philosophie de vie en ce qui me concerne et qu'il faut s'attendre à ce que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et Emley, c'est effectivement un mot bassa. J'allais dire un prénom, mais il n'y a pas de prénom en langue bassa. Je ne vais pas dire dans les langues africaines, je parle de cette langue-là. Il n'y a pas de prénom, c'est des noms. Et Emley, ça veut dire espérance, foi. Et on dit aussi Emley pour parler de quelqu'un qui a du cœur ou du courage. Donc voilà, j'adore ce mot, ce qui est devenu un prénom au fil du temps. J'ai toujours pensé que si j'avais une fille, je l'appellerais comme ça. Il se trouve que j'ai eu deux garçons, pas de chance. Enfin, j'adore mes garçons, mais voilà. Donc au moment où j'ai commencé à écrire, je me suis approprié ce nom parce que je me suis réinventée.
Alors justement,
grâce à ce nom.
Oui, justement, vous mentionniez vos deux garçons. Comment on peut écrire sur de tels sujets, par exemple sur un sujet comme l'adultère quand on est marié ou sur un sujet comme la sexualité quand on est mère comme vous l'êtes?
Comment?
Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on doit
se mettre dans
une bulle?
Non, oui, je pense qu'il faut de toute façon se mettre dans une bulle, quel que soit ce qu'on écrit. C'est pas vous que je vais dire, Antoine, c'est une activité éminemment solitaire. Mais dans cette bulle coexiste tout ce que je suis. Et je suis toutes sortes de personnes. Je suis mère, je suis épouse, j'ai une imagination débordante, j'observe le monde qui m'entoure, je fais feu de tout bois, je nourris mes personnages de tout ce que je rencontre. Je suis extrêmement ouverte à tout ce qui arrive. Hein, et ouverte et sensible à tout ce qui arrive. Et voilà, je me réapproprie tout ça et avec une grande facilité. Ça ne me dérange pas de parler de l'adultère. Au contraire, je suis tout à fait capable d'en parler avec... Je comprends intimement ce que ça veut dire, mais je peux parler de la maternité comme je peux parler de l'absence d'enfant. Oui, ça c'est, je pense que c'est la chance qu'on a aussi en tant que romancière, c'est l'immense chance qu'offre le roman, c'est qu'on a 1000 vies, où on peut s'approprier de 1000 vies, on peut s'approprier de toutes les existences qu'on rencontre et de toutes les expériences qu'on fait, que d'autres font, dont on entend parler, dont on a l'expérience ou pas, on peut s'approprier de tout ça et en nourrir des personnages.
Effectivement, c'est aussi ça l'universalité de la littérature.
Exactement.
Telle que vous la portez. Vous disiez que vous observez énormément ce qui se passe. Il se trouve que vous avez fait des études de sociologie,
oui,
avec également un petit peu d'anthropologie.
Exact.
Est-ce que ça vous a été utile pour avoir cet œil très critique, très vif, concernant la bourgeoisie camerounaise?
Oui, je pense que ça m'a aidé. Ça m'a aidé à avoir une vision, avoir du recul et pouvoir analyser ce qui se passe. Et ça m'a aussi aidé, et ça m'aide aussi à avoir une vision, un petit peu décalée, pas seulement sur ce qui se passe aujourd'hui, mais sur ce qui s'est passé avant et qui arrive à cette conséquence, une sorte de cheminement de vie comme ça. J'aime entendre les histoires de vie. Je pense que chaque vie est un roman. On peut écrire un roman sur la vie de chacun de nous, à condition de la prendre sous un certain angle ou d'y porter un certain regard. Et ces études-là m'ont aidé à cela, m'ont aidé aussi mes voyages, m'ont aidé aussi mes rencontres. Voilà, c'est toute une expérience de vie qui m'a menée là, en fait, qui m'a menée à ce type d'écriture. J'aime le roman qui raconte des dilemmes de vie, qui est adossé à une réalité sociale. C'est le roman tel que je l'aime. C'est le roman que j'essaye d'écrire.
Alors, pour faire partager à nos auditeurs le roman tel que vous essayez et vous réussissez à l'écrire, je vous propose de lire un passage de Sidémé. On vous écoute.
S'il était possible de mourir de joie dans l'instant ou d'éclater de fierté, je crois que les parents Jock ne seraient plus de ce monde, ni Céline, dont le sourire semblait ne jamais pouvoir disparaître, ni moi, un peu à l'écart dans la foule. Alors peut-être que c'est vrai, pensais-je, peut-être que les rêves se réalisent même en cette vallée de larmes. Certaines personnes, au-dessus de la mêlée, reçoivent le gros lot, et cela nous procure à nous autres de l'espoir pour plusieurs vies. Sois heureuse, ma petite. Mon diamant des cours communes, sois heureuse autant que tu le mérites. Dès que j'arrive, je vous téléphone, cria Céline en disparaissant de l'autre côté du couloir. Je vous appellerai tous les jours. Nous avons continué à agiter nos mains, criant des adieux que Céline ne pouvait plus entendre. Après tant d'émotions, la fièvre avait du mal à retomber. Nous sommes restés à l'aéroport assez longtemps pour voir l'avion d'Air France disparaître à l'horizon. Personne ne voulait partir. La plupart d'entre nous visiter l'aéroport de Douala pour la première fois de leur vie. Enfin, sauf si on l'en croit, ce frimeur de proprio. Eh oui, il était là aussi. Après tout, Céline est notre fille à tous. Je l'aime comme si j'étais son propre père. D'après lui, il était déjà venu à l'aéroport chercher son neveu qui faisait des études à Dakar. Ouais, dit Papa Chicotte, refusant de se laisser voler la vedette. Est-ce qu'il est arrivé par Air France, ton neveu, hein? Est-ce que ton pourri neveu est blanc? Non? Alors, fous-nous la paix. Le propriétaire ne rajouta pas un mot. Nous venions de voir, en live, le pouvoir changer de main dans notre petit monde. Personne d'ordinaire n'osait s'en prendre à celui-là même que nous venions supplier à chaque fin de mois difficile, afin d'obtenir un délai pour le loyer. Le seul à pouvoir vous dépanner d'une bière à crédit, d'un prêt à 25% d'intérêt, pour tenir le coup avant la prochaine entrée d'argent. Les fins de mois difficiles semblaient révolues pour l'Enjoc, et le propriétaire comptait bien profiter des fruits de la croissance. Nous nous sommes attardés à l'aéroport, puis nous sommes rentrés chez nous. Tout le monde s'est réuni au bar pour boire un coup, manger un morceau et commenter l'incroyable destin de Céline, la madone des cours communes. L'avion, parti le samedi soir, était censé arriver à Paris au petit matin. Céline avait pris le numéro du proprio, seule personne à avoir un téléphone dans le quartier. Papa Chicotte lui avait également transmis le numéro du standard de sa société. De toute façon, tout le monde savait maintenant que la fille de M. Ndjok était allée à Paris avec son fiancé. Chacun guettait le coup de fil. Il n'arriva jamais, ni ce jour-là, ni le lendemain, ni les jours suivants. Pendant de longs mois, personne n'eut aucune nouvelle de Céline.
Merci beaucoup, Emelie, pour ce passage. On aura compris à quel point l'écriture est féminine chez vous. Vous êtes une femme, bien évidemment, mais vous avez vraiment vocation à mettre en exergue la voix des femmes. Vous écrivez comme une femme, et quand je dis ça, c'est un compliment, parce que vous savez être à la fois réaliste, très cru, parfois même assez dur, mais vous avez aussi la douceur et l'intelligence du cœur. Tout cela se ressent très clairement dans votre style. Est-ce que votre écriture a quelque part un manifeste féministe permanent?
Alors, on me dit souvent ça, que j'ai une écriture féminine, mais ça me va. Je veux dire,
c'est un compliment.
Bien sûr, c'est pas, ça me va. Et on me dit aussi que, on me demande souvent si je suis féministe. La cause des femmes me soucie. C'est un vrai combat. Nous vivons dans un monde où le fait d'être une femme dans plusieurs sociétés reste encore un handicap énorme à franchir. Et même dans des sociétés plus évoluées, la condition des femmes reste un problème. Elles doivent se battre, elles doivent s'affirmer, elles doivent se faire entendre, et aucun combat n'est gagné d'avance. Aucune avancée n'est définitive. Alors oui, ça me plaît de porter cette cause. Ça me plaît de montrer des personnages de femmes forts et qui ne se laissent pas détruire. Je viens d'une famille où les femmes sont extrêmement fortes, où elles trouvent toujours des solutions, où elles prennent des chemins de traverse quand les routes leur sont barrées, où elles arrivent à s'exprimer. Et ça m'a construite. Cette manière de vivre et de faire et d'être, ça m'a construite. Alors je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. C'est important pour moi.
Et vous avez bien raison de l'être. Et quand je disais que vous écriviez comme une femme, c'était un compliment en ce sens que ça signifie que à la fois, vous avez la capacité d'écrire comme un homme et aussi comme une femme. Vous avez ce double regard, et c'est ce qu'on voit dans votre roman, puisque vous faites parler aussi bien Moussa que Valérie ou Salomé. Il faut préciser à nos auditeurs que Si d'aimer est votre deuxième roman. Le premier, Le clan des femmes, était paru aux éditions L'Harmattan.
Oui.
Si mes informations sont bonnes, il devrait être republié à La Cheminante.
Ben, je l'espère, en tout cas, nous y travaillons.
D'accord. Pas encore de date de sortie prévue?
Non, pas
mais
encore
un
de
projet...
date de sortie. Par contre, je suis en train de travailler avec La Cheminante pour un troisième roman qui va sortir en janvier et qui s'appellera Les Maquisards et qui traite de toute autre chose.
De l'indépendance du Cameroun, peut-être?
Oui, tout à fait. C'est un roman qui va mêler l'histoire avec un grand H, avec les histoires individuelles des personnes à cette époque-là. Et encore une fois, ce sera noté en tout cas que voilà, c'est un roman dans lequel coexistent de grandes figures féminines.
Pour reprendre les personnages féminins assez forts, est-ce que vous vous sentez au niveau littéraire une communauté d'esprit avec des romancières comme Calixte Beyala ou Leonora Miano, qui a votre âge d'ailleurs?
Oui, et c'est bien qu'elles existent. C'est bien que Leonora, qui fait un travail extraordinaire que j'aime beaucoup en tant qu'écrivain, existe. C'est bien que Calix soit là. Plus on sera nombreuses et mieux ce sera, moi je pense. Plus on sera nombreuses à faire entendre notre son de cloche, en faire entendre notre voix, que ce soit des Camerounaises ou des Congolaises, ou peu importe d'où on vient, des Nigérianes, il y en a il y a énormément d'écrivaines africaines en ce moment. Il y a une vraie littérature extrêmement forte et elles sont brillantes, toutes ces femmes. Et je suis heureuse de faire partie de cet univers, oui, bien sûr. C'est une fierté pour moi, en tant que lectrice, en tant que personne, qu'elle soit là. Avant ça, il y en avait d'autres. Il y a Ken Bougoul. Il y a tellement de femmes fortes. Il y a Mariam Abba. Il y en a plusieurs. Et c'est une écriture originale. Et c'est une écriture... une littérature qui décrit notre propre réalité et qui décrit nos propres dilemmes est importante en soi. Parce que c'est simplement... en nous lisant, chacun se reconnaît. C'est une individualité qui dit notre appartenance au monde. On se reconnaît dans cette... Tout le monde se reconnaît. Mes lecteurs ne sont pas qu'africains. Alors, le livre a été pas mal lu en Afrique et j'ai reçu beaucoup de commentaires, mais d'autres lecteurs d'autres pays se sont reconnus dans ces personnages, se sont attachés à Moussa, Salomé, Valérie. Voilà, on pleurait quand elle pleurait. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça m'a énormément touchée, j'en ai pleuré. Il y a des gens qui m'ont dit, j'ai lu des passages dans le mariage parce que c'était important ce que vous disiez sur le couple, sur la vie à deux, sur le temps qui passe. J'ai reçu toutes sortes de commentaires de personnes d'horizons divers et ça, c'est magnifique.
Eh bien, c'est sur cette très belle note que notre émission s'achève. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre page Facebook, émission littéraire Parole d'Afrique. N'hésitez pas à poster des commentaires, des suggestions ou même des critiques, je les lirai avec attention. Merci à la librairie Galerie Congo de nous avoir accueillis une fois encore. Ebleboum, merci beaucoup.
Merci Antoine. Merci
et
à toi.
Merci à très bientôt pour de nouvelles Paroles d'Afrique. Pour CKCO Literary News, Antonio Le Garcia, à Paris.
De la radio communautaire de Carleton University Ottawa, c'était Parole d'Afrique, une émission de CKCO Literary News. Comme toutes nos émissions littéraires diffusées en trois langues, celle-ci vous est aussi offerte par Balado Diffusion Podcast, ainsi que sur notre liste lecture automatique, c'est CKCU On Demand, tel qu'indiqué dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter. Au plaisir de vous lire et merci.